Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 22 janvier 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les Iraniens ont organisé un cortège funèbre pour les conseillers militaires du corps des gardiens de la révolution islamique, tués en martyr lors d'une attaque israélienne contre la capitale syrienne Damas. L'occupation israélienne lance de violents bombardements aériens et d'artillerie sur la bande au Gaza. Et des milliers de Français protestent contre la nouvelle et sévère loi immigration. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Les Iraniens ont organisé un cortège funèbre ce lundi 22 janvier à Téhéran pour les conseillers militaires du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, tués en martyr lors d'une attaque israélienne contre la capitale syrienne Damas. Des gens se sont rassemblés ce lundi dans un quartier du nord-est de Téhéran pour rendre hommage aux victimes de la frappe israélienne survenue samedi près de Damas. Une autre cérémonie funéraire pour les deux autres martyrs aura lieu dans la ville sainte de Rome. Les participants ont scandé des slogans contre les États-Unis et Israël. Dans un communiqué publié samedi, le CGRI a déclaré que 4 de ses membres servant dans une mission militaire consultative en Syrie, ont été assassinés lors d'une frappe aérienne israélienne contre un immeuble résidentiel dans le quartier d'Al-Meza, à l'ouest de Damas. Il a été précisé plus tard qu'un cinquième conseiller avait succombé à ses blessures. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que l'acte terroriste d'Israël est un signe de l'échec du régime à atteindre ses objectifs malveillants et de sa profonde frustration à l'égard des combattants du front de la résistance, avertissant que les assassinats ciblés ne resteront pas sans réponse. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a également déclaré que la République islamique se réserve le droit de répondre au terrorisme organisé de l'entité occupante au moment et à l'endroit approprié. Au milieu d'intenses affrontements avec la résistance palestinienne à Khan Younes, au sud de la bande au Gaza, l'occupation israélienne lance de violents bombardements aériens et d'artillerie sur la ville. Les médias palestiniens ont rapporté lundi 22 janvier à l'aube que les avions et l'artillerie de l'occupation israélienne avaient lancé le bombardement le plus lourd depuis le début de la guerre sur Khan Younes, dans le sud de la bande au Gaza, au milieu de violents affrontements avec la résistance palestinienne. Selon ces médias, des coups de feu ont été signalés dans les zones orientales situées entre les gouvernorats de Khan Younes et de Rafah. Des images montrent un drone quadricoptère israélien ciblant des civils palestiniens dans la région d'Al-Mawassi, à l'ouest de la ville de Khan Younes.
Dans la foulée, les brigades de la résistance nationale ont déclaré s'être engagées dans des affrontements intenses avec les forces d'occupation à l'ouest de Khan Younes et avoir affronté l'occupation près de l'université Al-Aqsa. Avant cela, les brigades Al-Rots avaient annoncé qu'elles avaient ciblé des rassemblements de soldats d'occupation dans l'est et le centre de Khan Younes avec des obus de mortiers standards de calibre 60. Les combattants palestiniens ont ciblé un char israélien, Merkava, à l'aide d'un obus Tandem à l'est de Khan Younes, en se livrant à d'intenses affrontements dans le coin. Le communiqué mentionne que plusieurs soldats d'occupation ont été tués et plusieurs autres blessés. De leur côté, les brigades Al-Rassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé avoir également visé un char Merkava. Les brigades ont annoncé avoir contrôlé un drone israélien, Skylark, lors d'une mission de renseignement à l'est de Jabalia al-Balad, au nord de la bande de Gaza. Dans une opération distincte, les brigades Moudjahidin ont ciblé des rassemblements de véhicules et de soldats d'occupation avec plusieurs obus de mortiers de gros calibre à l'est de la ville de Gaza. Le mouvement de résistance yéménite Ansar Allah mis en garde les États-Unis et leurs alliés contre toute violation de la souveraineté du pays dans le cadre des opérations anti-israéliennes de l'armée yéménite en mer Rouge. Le porte-parole d'Ansar Allah, Mohamed Abdesalam, a fait ses remarques dimanche dans un communiqué avertissant les puissances occidentales que le Yémen contrecarre tout acte d'agression. Nous rappelons que le Yémen ne permettra aucune violation de sa souveraineté et qu'il fera face à toute agression à laquelle il sera confronté, a-t-il dit. Abdesalam a fait ses remarques après que les États-Unis et l'Angleterre ont mené plusieurs attaques de missiles contre des cibles yéménites au cours du mois dernier. Ils ont prétendu que ces attaques étaient une réponse aux frappes des forces armées yéménites contre des navires israéliens ou ceux à destination des ports des territoires palestiniens occupés. Les forces yéménites ont également lancé des attaques de missiles et de drones sur des cibles contrôlées par leur régime sioniste dans les territoires occupés en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, qui sont victimes d'une guerre génocidaire soutenue par les États-Unis et menée par leur régime depuis le 7 octobre 2023. Plus de 25 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués jusqu'à présent dans l'attaque militaire israélienne. Sans oublier, plus de 62 600 blessés. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues partout en France et ont demandé au président français de ne pas soutenir la nouvelle loi immigration. 4 jours avant une décision très attendue du Conseil constitutionnel concernant la loi immigration soutenue par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, entre 75 000 et 150 000 personnes ont participé partout en France aux manifestations organisées dimanche 21 janvier contre cette loi. Les manifestants ont exprimé leur opposition à la loi immigration. De 25 000 à Paris, a annoncé le secrétaire général de la Confédération générale du travail CGT, Sophie Binet sur X. La préfecture de police de Paris a comptabilisé 75 000 manifestants en France, dont 16 000 dans le cortège parisien. Le plus important, des 160 marches prévues dimanche en France pour répondre à un appel lancé initialement par plus de 200 personnalités contre ce texte controversé. Ils voulaient montrer que pour eux, la bataille n'était pas finie. Selon la nouvelle loi immigration adoptée en décembre 2023, la France peut expulser les étrangers qu'elle estime indésirables et rendre plus complexe leur accès aux prestations d'assurance et de protection sociale. Les courants d'extrême droite croient que seuls les ressortissants français devraient bénéficier de ces avantages sociaux dans l'Hexagone. Le président Macron a initialement soutenu la décision du Parlement français d'approuver la loi immigration, mais a ensuite déclaré que certaines de ses clauses étaient contraires à la Constitution. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grushko, réagissant au projet de l'OTAN d'organiser ses plus grands exercices depuis la guerre froide, a estimé que ces manœuvres marquaient un retour à cette époque pour affronter Moscou. Ces exercices de grande envergure marquent le retour définitif et irrévocable de l'Alliance au schéma de la guerre froide visant à la confrontation avec la Russie, a dit le vice-ministre en réaction aux manœuvres baptisées et Steadfast Defender. Les préparatifs se déroulent sur fond d'une psychose militaire exacerbée de manière artificielle et d'appels aux Européens de se préparer à une éventuelle guerre avec la Russie, a noté Grushko. La Russie ne se laissera pas intimider par ces manifestations provocatrices. Moscou dispose de toutes les ressources nécessaires pour assurer sa sécurité et sa défense, a encore dit le haut responsable russe. Récemment, les pays occidentaux ont multiplié leurs allégations sur le danger d'une attaque russe contre les territoires de l'OTAN en cas de victoire en Ukraine. Le chef du comité militaire de l'Union européenne, le général Robert Brigger, a déclaré samedi que la prise de l'Ukraine par la Russie transposerait son influence de plusieurs centaines de kilomètres vers l'ouest et créerait une menace potentielle similaire à celle observée pendant la guerre froide. Les manœuvres de l'OTAN se dérouleront en 2024 sur les territoires de l'Allemagne, de la Pologne et des États baltes. Elles vont impliquer près de 90 000 militaires et prendront plusieurs mois. Elles se dérouleront entre autres à proximité des frontières russes. L'OTAN elle-même a qualifié ces manœuvres de plus grand exercice depuis la guerre froide, au cours duquel les forces américaines devraient s'entraîner à renforcer les alliés européens dans les pays frontaliers de la Russie, ainsi que sur le flanc oriental de cette alliance en cas de conflit. La Russie a à plusieurs reprises dénoncé les activités sans précédent de l'OTAN près de ses frontières occidentales et a signalé que le bloc était axé sur la confrontation. Cependant, l'expansion de l'Alliance n'apportera pas plus de sécurité à l'Europe, selon Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le Royaume-Uni a effectué 50 vols de reconnaissance au-dessus de la bande de Gaza en soutien à Israël. Un journal britannique a révélé que l'armée de l'air du Royaume-Uni avait effectué 50 vols de reconnaissance au-dessus de Gaza pour fournir des renseignements à l'armée israélienne. Le journal britannique Declassified UK, spécialiste des organisations militaires et de renseignement, a écrit que l'armée de l'air britannique avait effectué 50 vols de reconnaissance au-dessus de Gaza depuis début décembre 2023 pour aider Israël. Selon ce journal, des avions de reconnaissance ont décollé de la base aérienne britannique controversée de Chypre, RAF Akrotiri. Un vol est effectué chaque jour et les renseignements collectés sont transmis à Israël. Declassified UK a écrit que l'armée britannique utilise dans ses vols des avions de reconnaissance Shadow Era, connus comme avions de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance, ISTAR. Cet avion est capable de voler à une vitesse de 453 km jusqu'à une altitude de 10 668 mètres. Les vols britanniques ont débuté le 3 décembre, lorsque deux Hérans ont survolé Gaza. Jusqu'à présent, les vols se sont poursuivis presque quotidiennement, avec environ la moitié des journées comportant deux vols. Le 3 janvier, les Britanniques ont envoyé trois fois un Iran au-dessus de Gaza. Les vols semblent durer environ 6 heures. Le ministère britannique de la Défense a annoncé le 2 décembre qu'il commencerait des vols de surveillance au-dessus de Gaza pour fournir des renseignements à Israël et soutenir les activités en cours de sauvetage des otages. le Hamas a condamné la décision du Royaume-Uni d'effectuer des vols de surveillance au-dessus d'Israël et de Gaza et de fournir des renseignements à Tel Aviv, estimant que cela équivalait à une implication militaire dans la guerre génocidaire contre Gaza. L'intention du Royaume-Uni d'effectuer des vols de reconnaissance au-dessus de la bande de Gaza en fait un complice des crimes de l'occupation sioniste, ainsi qu'un responsable des massacres auxquels le peuple palestinien est soumis, a déclaré le mouvement de résistance palestinien Hamas dans un communiqué. Le soutien des services de renseignement britanniques au régime israélien à Gaza intervient à un moment où Londres et Washington sont venus en aide à Israël en mer Rouge pour empêcher le blocus économique de ce régime par les Yéménites. Les chasseurs britanniques et américains ont jusqu'à présent bombardé à plusieurs reprises le territoire du Yémen.
Au nom de Dieu, le miséricordieux, ce sont les premiers mots que je souhaite indiquer aujourd'hui à notre débat concernant la situation palestinienne que nous avons commentée depuis le 7 octobre ici. Aujourd'hui, nous savons que les Houthis, les Yéménites, les seuls à l'heure actuelle avec la résistance, bien entendu, de la région, à vouloir aider les Gazaouis face au blocus dont ils sont en souffrance, sont maintenant de nouveau sur la liste des groupes terroristes de la part des États-Unis, seul pays à vouloir confronter les pays du monde entier à ce qui se passe réellement à Gaza, non pas en attaquant de manière violente, mais tout simplement en empêchant les bateaux de passer sur le passage en mer Rouge, une chose qui leur est légitime, qui permet et qui est le seul finalement levier qui permet de faire comprendre à l'entité sioniste ce que c'est un blocus, comme ils le font subir aux Gazaouis. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord d'écouter le reportage que nous avons préparé à cet effet pour par la suite faire venir nos deux invités qui suivent les nouvelles du Moyen-Orient depuis des années et qui connaissent bien la situation. Je vous propose donc notre reportage.
Les États-Unis affirment avoir réinscrit le mouvement yéménite Ansar Allah sur leur liste des organisations terroristes, l'accusant d'attaques répétées contre la navigation internationale dans la mer Rouge. En réponse à ces menaces et attaques continues, les États-Unis ont annoncé la désignation d'Ansar Allah, également connu sous le nom de Houssi, comme terroriste mondial, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, dans un communiqué. Les responsables ont déclaré que cette décision signifiait que le mouvement de résistance populaire yéménite serait frappé par des sanctions. De hauts responsables américains ont déclaré aux médias occidentaux que la désignation prendrait effet dans 30 jours, et qu'elle pourrait également être annulée si les Yéménites cessent leurs attaques. Dans le cadre de leur soutien aux Palestiniens, les forces armées du Yémen ont ciblé au cours du mois dernier plusieurs navires appartenant à Israël ou naviguant à destination des ports des territoires occupés palestiniens dans la mer Rouge après de multiples avertissements. Le Yémen affirme que cette mesure a pour but de mettre un terme à la guerre génocidaire israélienne contre Gaza qui a jusqu'à présent tué plus de 24 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. Cependant, les États-Unis et leurs alliés ont présenté l'action du Yémen comme une menace à la paix internationale. La semaine dernière, des avions de guerre, des navires et des sous-marins américains et britanniques ont lancé des dizaines de frappes aériennes contre le Yémen. Ils ont été suivis par de multiples frappes américaines ces derniers jours. L'Iran, la Russie, la Turquie et plusieurs autres pays ont vivement critiqué les États-Unis le Royaume-Uni et leurs alliés pour leurs récents actes d'agression contre le Yémen, affirmant que ces pays portent l'entière responsabilité de la violation du droit international. L'administration de Donald Trump avait placé Ansar Allah sur la liste des organisations terroristes. Cela a incité les Nations Unies, les groupes humanitaires et certains législateurs américains à exprimer leur crainte que les sanctions ne perturbent les flux de nourriture, de carburant et d'autres produits vers le Yémen. En février 2021, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a révoqué cette désignation en reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen. Les Nations Unies qualifient la crise humanitaire au Yémen de grave, avec plus de 21 millions de personnes, soit les deux tiers de la population ayant besoin d'aide. Selon l'ONU, plus de 80% de la population a du mal à accéder à la nourriture, à l'eau potable et à des services de santé adéquats.
Nous revoilà donc sur les plateaux, tout de suite la venue de nos deux invités. Alors, le premier invité étant M. Bernard Cornu. Bonjour M. Cornu, fervent militant pour la cause palestinienne. On est ravis de vous avoir sur les plateaux de Presse TV.
Bonjour à vous et à vos frères, Mme Aïssa Amadani.
Merci M. Bernard Cornu. Alors vous l'aurez compris, notre deuxième invité étant Mme Aïssa Amadani, qui a été notre experte sur la situation syrienne au moment où le terrorisme battait son plein dans la région. Vous suivez également la cause palestinienne depuis ses débuts et vous êtes militante pour cette cause. Bonjour Mme Amadani, ravie de vous avoir avec nous sur le plateau de Presse TV.
Bonjour, merci de votre invitation, ravi d'être avec vous aussi et bonjour à M. Cornu.
Merci Mme Amadani. On va commencer tout de suite par vous si vous le voulez bien. Alors concernant la situation du Yémen, parce qu'on oublie que ce pays qui décide d'être la voie de protection des Gazaouis, donc des Palestiniens, à l'heure actuelle, sont de nouveau mis sur cette liste. Bon, une liste qui finalement n'est pas si importante pour eux, puisque ça fait quand même depuis 2011 qu'ils sont confrontés à être tout seuls face au monde, puisqu'on sait qu'il y a eu des attaques qui sont récemment arrêtées avec l'Arabie Saoudite en premier ennemi pour le Yémen face au fait qu'ils ne voulaient plus le président Hadi au sein du gouvernement du Yémen. Vous le savez très bien, Mme Amadani, on a déjà eu des débats sur le Yémen, mais là, la situation elle semble extrêmement injuste, parce que finalement, sans le blocage de la mer Rouge, l'entité sioniste ne peut pas savoir ce qu'il en est d'être bloqué, puisque les ports sont bloqués, le matériel n'arrive plus jusqu'au port de l'entité sioniste. Finalement, c'est la seule chose qui pourrait faire comprendre à l'entité israélienne ce que ça veut dire de bloquer un pays, ce qu'ils font à l'heure actuelle, ce qu'ils font subir à une population de plus de 2 millions de personnes à Gaza. Est-ce que c'est vraiment juste? Alors, on va dire, est-ce que le mot juste est le bon mot? Mais est-ce qu'on n'est pas forcément dans une situation aussi injuste? Le seul pays à vouloir défendre, de nouveau, à être critiqué et être à l'amende devant le monde entier?
Écoutez, il est clair quand même que les États-Unis sont de connivence totale avec l'État fantoche d'Israël. Et ils ne sont pas seulement de connivence, mais ils continuent à soutenir cette agression israélienne contre le peuple de Gaza et contre le peuple palestinien depuis des années. Et là, ça s'est confirmé en fait depuis le 7 octobre avec un soutien indéfectible à tous les crimes en fait israéliens, au génocide, même un soutien indéfectible. Il faut quand même penser qu'il y a un pont aérien qui est constitué entre les États-Unis et Israël, qui amène des munitions de plus en plus meurtrières et des armes de plus en plus meurtrières. Quand je parle des munitions de plus en plus meurtrières, ça veut dire qu'il y a des bombes qui sont de plus en plus importantes, des milliers de bombes. Et ils ont été en appui aussi au fait que toutes ces bombes qui sont déversées sur les civils à Gaza, sur un territoire qui ne dépasse pas 32 km², et sur les pour la, l'explosion des maisons, de toutes les tours d'habitation en fait aujourd'hui encore, hier et aujourd'hui et depuis une semaine. Khan Younes, qui est le théâtre vraiment d'actions terroristes israéliennes terribles, aussi bien contre les blessés, contre l'hôpital, contre le seul hôpital qui continue à fonctionner, qui est au sud de Gaza, et contre les habitations civiles, des carrés d'habitations entiers, des tours entières qui ont été complètement abattu sur la tête de leurs habitants. Donc, je voudrais aussi rappeler la position des États-Unis aussi vis-à-vis du procès qui a été mené par l'Afrique du Sud contre Israël pour l'accusant de génocide. Les États-Unis refusent qu'il y ait la moindre enquête en fait contre Israël pour vérifier le génocide, pour constater en fait, parce qu'on le sait tous que c'est un génocide, puisque aujourd'hui il y a 24 000 morts et 60 000 blessés, 61 000 blessés. Sans parler de tous ceux qui sont encore sous les décombres, des milliers de personnes qu'on n'a jamais pu secourir ni même sortir de décombres pour les enterrer. Ajoutez au fait aussi que les Yéménites, effectivement, soutiennent, et ils ont toujours annoncé qu'ils soutenaient la résistance palestinienne, qu'ils avaient annoncé et mis en garde aussi que de toute façon, si ça continue, nous allons bloquer les ports israéliens et puis tout ce qui passe par la mer Rouge pour Israël comme munitions, comme marchandises, etc. Et tous les cargos israéliens. Ils ont annoncé et ils ont dit la navigation et les scènes est sauf pour tout le monde, tous les autres qui ne sont pas, qui ne viennent pas à Israël, qui ne partent pas d'Israël. La seule condition qui permettra qu'on arrête de faire ce travail, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu, et qu'il y ait un arrêt de l'agression contre la population à Gaza.
Oui, c'est vrai que les Yéménites l'ont bien dit.
Les positions des Yéménites sont claires, nettes et précises.
Les Yéménites n'ont même pas dit qu'ils attendaient qu'un État palestinien se fasse. Ils ont dit vous arrêtez le blocus à Gaza et nous arrêtons notre blocus en mer Rouge, ce qui paraît tout à fait très humain au vu de la situation humanitaire à Gaza. Alors vous avez parlé du fait que les États-Unis s'opposaient à trouver des preuves et à enquêter sur le terrain, mais en fait, malheureusement pour les États-Unis, j'ai envie de dire, entre guillemets, le mot malheureusement bien entendu, c'est que les enquêtes ont déjà été réalisées, puisqu'il y avait des membres d'organisations internationales, d'ONG présents sur place, qui ont dû être évacués, qui sont rentrés au pays, qui ont raconté ce qu'ils ont vu. Ce ne sont ni des Arabes, ni des résistants, ni quoi que ce soit. Ce sont des médecins qui ont travaillé dans les hôpitaux, qui ont vu leurs collègues se faire tuer ou leurs collègues décider de rester, sachant qu'ils allaient pouvoir être tués. Donc tout ça constitue déjà de manière à part entière l'enquête. Monsieur Bernard Cornu, pour venir à votre analyse, on sait que la situation à Gaza est telle quelle. On est en train d'en parler. C'est depuis le 7 octobre, nous sommes ici ensemble sur ces plateaux de Presse TV à parler toujours de la même chose. Les gens meurent, les enfants sont amputés sans anesthésie. Les gens sont en train de mourir de faim parce que c'est de plus en plus critique d'un point de vue nourriture. On entend des rumeurs en disant on va peut-être envoyer de la nourriture par avion, etc. Si le Qatar arrive à négocier certaines choses avec les Houthis, peut-être, on dit que les Houthis ne représentent pas le Yémen. Il y a beaucoup de rumeurs à l'heure actuelle sur les réseaux, par le biais des médias, même des gens qui disent ok, si l'entité sioniste gagne, on va dire que s'ils sont en train de gagner la guerre, on oublie le fait que le Hezbollah déclare déclaré de manière très précise que l'engagement militaire sioniste n'est pas aussi bien qu'ils le disent officiellement, qu'il y a beaucoup de morts du côté de l'entité sioniste qui ne sont pas déclarés. Ça, on oublie toute cette partie-là. Mais de l'autre côté, les gens commencent à se poser la question de, si l'entité sioniste gagne, qu'est-ce qui va se passer à Gaza ? Parce que tous les gens de Gaza, les 2 millions de personnes vivant, 1 500 000 personnes qui vivent à Gaza, ne sont pas tous du Hamas. Qu'est-ce que vous allez faire de Gaza qui a été complètement détruit ? Les institutions scolaires, les hôpitaux, les organisations même municipales, puisque les municipalités ont été directement touchées. Également, tout ce qui peut organiser la vie à Gaza. Et nous avons ces Européens qui disent, oui, ce sont des terroristes. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font, eux, à la place des Yéménites, pour arrêter tout ça? Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attaquent ni un pays, ils n'attaquent ni une armée officielle, donc la souveraineté d'un pays. Ils bloquent le passage naval de bateaux qui s'en iraient vers l'Atlantique. Ils ont plus ou moins le droit. Si on regarde le droit international, ils ne font rien réellement d'illégal, parce qu'ils utilisent un droit qu'ils ont, c'est-à-dire un passage dont ils en ont une partie de la souveraineté. Et c'est la seule chose qui permet de faire un levier psychologique quelque part, outre le fait de la résistance. Vous-même, en tant qu'Européen, quand vous suivez le manque d'action européen, vous ne vous dites pas, c'est injuste qu'on s'en prenne au seul pays, finalement, qui, officiellement, avec sa souveraineté, est là pour les Gazaouis.
Oui, il a fait en France et en Europe, dans le monde, il y a eu beaucoup de manifestations. Pour l'instant, on n'arrive pas à influencer beaucoup les gouvernements complices, les gouvernements occidentaux complices, notamment au niveau de l'Europe. Et à l'Assemblée française, seuls les députés de la France insoumise, donc notre gauche française radicale, critiquent très vertement la position du gouvernement français, qui refuse pour l'instant de soutenir la plainte de l'Afrique du Sud pour génocide commis par Israël. Dans les télévisions publiques, on en a très peu parlé, on a surtout diffusé la contre-plaidoirie en défense de l'État israélien. Et le même nouveau ministre des Affaires étrangères français, M. Séjourné, en répondant à ces critiques très fortes du parti France Insoumise, a dit que accuser Israël de génocide était un crime moral, était une faute morale. Donc je pense qu'il comprend mal la chose. Et d'ailleurs, je peux relever que M. Séjourné a fait un lapsus dans sa réponse, puisqu'il a dit que la position française, la position du président français, permettait de garantir les souffrances des Palestiniens. Et je note aussi que dans sa conférence de presse, mardi dernier, à la fin de sa conférence, quand il a parlé du conflit entre Israël et la Palestine, le président français a dit à un moment, nous devons cesser ces attaques qui sont par trop indifférenciés, et nous devons protéger les populations civiles. En fait, par cette formulation, nous devons cesser les attaques, on comprend que inconsciemment, il s'assimile totalement à la défense de Netanyahou ou à son droit à des défenses. La France, le président français a souvent dit la défense, le droit à la défense d'Israël devait se faire dans le respect du droit humanitaire. Mais il n'a jamais dit que jusqu'à présent, l'État israélien, le gouvernement israélien, l'armée israélienne n'ont jamais respecté le droit humanitaire et l'ont constamment violé. Donc en fait, on voit que le gouvernement français, le président français, n'arrive pas à faire une critique radicale de la situation, des comportements de l'armée israélienne et du gouvernement israélien.
Ah, merci.
Seuls quelques députés français et des manifestations peuvent le faire.
En effet, donc, d'un point de vue donc de souveraineté, le seul pays qui actuellement peut se permettre, parce qu'il n'a aucun rapport avec les autres pays étrangers dans le monde entier à cause de cet embargo qu'ils ont subi depuis 2011, hein, je parle du Yémen, c'est finalement le seul pays à l'heure actuelle de pouvoir faire de manière souveraine ce genre de blocus sans être impacté d'un point de vue financier, puisqu'ils sont déjà dans une situation extrêmement difficile. Madame Midani, ça me fait penser à la Syrie, lorsqu'il y a eu des déclarations concernant les casques blancs, vus comme les super-héros de la situation syrienne. Une ONG qui était finalement basée à Londres, qui parlait de ce qui se passait en Syrie sans être sur place. C'est du déjà vu, pour vous.
Absolument. Oui, c'est tout à fait ça. La La fameuse Organisation des droits de l'homme, c'était une organisation qui opérait à Londres et qui était créée de toutes pièces par les renseignements britanniques. C'est pas seulement qu'ils n'étaient pas sur place, qu'ils étaient complètement alignés sur les positions des agresseurs et des terroristes. Et puis les casques blancs n'étaient rien d'autre que des terroristes qui ont changé de casquette. Et c'est le cas de le dire. Donc en fait, c'est effectivement la situation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays occidentaux qui sont dans la mouvance de l'OTAN, ils obéissent aux ordres américains et les Américains soutiennent totalement, effectivement, ce génocide mené par Israël contre le peuple palestinien. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, il est important de voir quand même, on est en train d'invoquer toujours, les États-Unis sont toujours en train de jouer avec le droit international, avec les sanctions. Alors, n'oubliez pas que Gaza est sous sanctions quand même depuis 2007, hein, sous blocus total. La Syrie, c'est pareil, elle est sous blocus total depuis 2011-2012. Et la situation ne cesse de s'aggraver et les sanctions ne cessent de tomber. La Russie est sous sanctions aussi depuis le début de l'opération en Ukraine. La Chine est sous sanctions. Enfin, les Américains, ils n'arrêtent pas de distribuer les sanctions. Je rappelle quand même que l'Iran aussi est sous sanctions et tous les pays sont arrosés de sanctions à partir du moment où ils ne se soumettent pas à l'ordre de l'ex-majesté, en fait, les États-Unis plus l'Angleterre. Alors, ça, c'est aussi un point qu'il faut voir, et il est temps d'en prendre conscience, et il est temps aussi que dans les organisations de l'ONU, qu'on arrive à se débarrasser de cette tutelle américaine qui impose à ces institutions de soutenir, je dis entre guillemets, soutenir, mais elles finissent de s'aligner sur les positions américaines dans toutes les situations qui surviennent dans le monde. Et je rappelle quand même, l'ONU est une organisation qui doit garantir la paix dans le monde, qui doit garantir de bonnes relations entre les différents pays et qui interdit aussi l'intervention armée et les ingérences d'un pays à l'autre. Alors, franchement, on voit qu'aujourd'hui, cette ONU, elle est complètement neutralisée, malheureusement, et qu'on n'arrête pas de jouer, malgré quand même la position que je salue d'Antonio Guterres, qui a effectivement dit que la situation à Gaza est une situation catastrophique et qu'il est temps, il faut impérativement arrêter. Je rappelle quand même cette réunion qui a eu lieu où il y avait 153 pays qui ont voté pour arrêter effectivement les bombardements et cesser le feu à Gaza, et qu'il y avait juste les États-Unis avec Israël qui ont fait un veto total à cette décision. Donc, en Merci. Fait, c'est vrai que les États-Unis font pratiquement, malheureusement, la pluie et le beau temps dans les organisations internationales. Donc, la seule situation, c'est que les peuples doivent se défendre par les moyens qu'ils ont, et aussi, y compris, les moyens de blocus aussi au niveau de certains pays, de la marine, des passages maritimes, parce que c'est aussi la seule chose qui fait écho, c'est quand on prend les pays par ce qui leur fait mal, c'est l'économie.
Merci Madame Midani. Monsieur Cornu, peut-être un dernier mot, en sachant que ce sera la conclusion du débat. Nous avons à peine une minute. Si vous le voulez bien, je vous laisse conclure sur ce que Madame Midani
a
dit.
Et sans oublier les moyens du droit international, puisque maintenant l'Afrique du Sud a pu saisir la Cour internationale de justice avec un dossier très bien fait, que j'ai écouté attentivement, dont on a très peu parlé en France, malheureusement. et aussi par la Cour pénale internationale qui a été saisie, qui a, pour lequel que le Mexique et le Chili ont demandé qu'elle soit saisie pour traiter justement des crimes et enquêter sur ces crimes-là et pouvoir mettre en accusation les personnels dirigeants de l'État israélien qui commettent ce génocide en ce moment.
Merci, Monsieur Cornus. Donc, ce sont ces mots que nous finissons notre débat du jour. Je le rappelle, on parlait du fait de mettre donc le Yémen, donc les Houthis, derrière de nouveau la liste terroriste des États-Unis et du fait de la légitimité donc de ces pays à vouloir réagir face à une atrocité qui se passe dans leur voisinage, une atrocité humaine dont on rappelle femmes et enfants sont les premiers touchés et dont à l'heure actuelle on parle d'une crise humanitaire où il faudra des années, voire peut-être jamais, pour en revenir. Je vous remercie d'avoir suivi Presse TV et son débat. Je vous propose de voir ou revoir notre débat et nos débats sur notre site ou nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt ici sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne Téhéran pour un autre sujet de débat et qui soutient toujours la Palestine. Depuis le 7 octobre, nous suivons la situation et nous soutenons la cause palestinienne. Je vous dis au revoir.
Au revoir.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Voyage dans l'univers mystique de Molavi. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. Ventre. L'infidèle mange avec ses sept ventres, mais le croyant se contente d'un seul. Un indice du prophète. Un groupe d'infidèles arriva un jour à la mosquée. Ils dirent au prophète : Ô toi qui es généreux envers tous, nous venons te demander l'hospitalité. Notre voyage a été long. Offre-nous la lumière de ta sagesse. Le prophète s'adressa alors à son entourage. « Ô mes amis, répartissez ces invités entre vous tous, car mes attributs doivent aussi être les vôtres. » Chacun des membres de l'entourage du prophète se chargea donc d'un invité. Il n'en resta qu'un seul, un homme de forte corpulence. Personne ne l'avait invité et il restait dans la mosquée comme la lyre reste dans un verre de vin. Ce fut donc le prophète qui s'occupa de lui et l'amena à sa demeure. Or le prophète possédait cette chèvre qui lui procurait du lait. Elle avait pour habitude de s'approcher de la maison à l'heure des repas afin qu'on les traille. L'infidèle, sans vergogne, absorba le lait des sept chèvres ainsi que tout ce qu'il put trouver comme pain et autres nourritures. La famille du prophète fut fort attristée de voir ainsi la part de chacun engloutie. Cet homme étrange, au ventre en timbale, avait dévoré le repas de 18 personnes. quand vint l'heure d'aller se coucher, l'homme se retira dans sa chambre. Une servante, prise de colère à son égard, l'y enferma. Au milieu de la nuit, l'infidèle ressentit de violents maux de ventre. Il se précipita vers la porte, mais hélas, la trouva close, verrouillée de l'extérieur. Il tenta comme un forcené de l'ouvrir, mais en vain. La pression qui habitait son ventre lui rendait l'espace de sa chambre de plus en plus étroit. En désespoir de cause, il retourna se coucher. Dans ses rêves, il se vit, lui, au milieu des ruines. En effet, son cœur tombait lui aussi en ruine. Cette sensation fut si forte qu'il rompit ses ablutions et souilla son lit. Au réveil, il devint comme fou de chagrin à la vue du désastre. La terre tout entière, se disait-il, me suffirait pas à couvrir pareille honte. Ce sommeil était pire qu'une nuit blanche. Ce que je mange d'un côté, je le rejette de l'autre pour salir. Dans quelle situation me suis-je mis? Comme un homme au seuil de la tombe, il attendit l'aube et l'ouverture de la porte en se lamentant. Il était comme une flèche sur un arc bandé, prêt à s'enfuir en courant afin que nul ne voie son état. Au matin, le prophète vint lui ouvrir la porte, puis se cacha derrière une tenture par délicatesse. Bien qu'étant parfaitement au courant de la mésaventure de son hôte, il ne voulait pas le montrer, car c'était la sagesse et la volonté de Dieu qui avaient mis l'homme dans cette situation. C'était dans son destin de connaître semblable mésaventure. L'animosité peut engendrer l'amitié et les bâtiments finissent par tomber en ruine. Un importun apporta le lit souillé au prophète et lui dit « Vois ce qu'a fait ton invité. » Le prophète répondit en souriant « Apporte-moi une cruche d'eau afin que je nettoie ceci tout de suite. » Au don de Dieu, s'exclama alors son entourage, « Que nous soyons sacrifiés pour toi. C'est à nous de nous occuper de ceci. Ne t'en soucie pas. Ce travail est fait par la main et non pas par le cœur. Nous mettons notre bonheur dans le fait d'être tes serviteurs. Si toi-même tu assures le service, quelle sera notre utilité ?»« Je comprends, » dit le prophète, « mais il y a dans tout cela une sagesse cachée. » Chacun entendit donc la révélation de ce secret. Le prophète nettoya le lit de son hôte avec grand soin. Or, l'infidèle possédait une statuette qui lui venait de ses ancêtres. En chemin, il s'aperçut soudain qu'il l'avait égarée. Plein d'angoisse, il se dit « Sûrement, je l'ai oubliée dans ma chambre. » Il répugnait à revenir sur les lieux de sa honte, mais l'avidité fut la plus forte et il rebroussa chemin. Arrivé à la demeure du prophète, il vit que celui-ci était en train de laver de ses propres mains le lit souillé. Sur le champ, il oublia sa statuette et poussa de grandes lamentations. Il se frappa le visage des deux mains et se cogna la tête contre les murs, si bien que son visage se couvrit de sang. Le prophète voulut le calmer, mais alerté par ses cris, la foule accourut. L'homme se prosterna devant le prophète en disant « Ô toi, la quintessence de l'univers, tu obéis aux ordres de Dieu. Moi, qui ne suis qu'une parcelle infime, j'exprime ma honte devant toi. » À la vue de cette effusion, le prophète le prit dans ses bras et le calma. Il ouvrit l'œil de son âme. S'il ne pleuvait pas, l'herbe ne resplendirait pas. Si l'enfant ne criait pas, on ne lui donnerait pas de lait. L'œil qui pleure est nécessaire. Ne mange pas excessivement, car le pain ne fut qu'augmenter la soif de son essence. Touché par la tendresse du prophète, l'homme s'éveilla comme s'il sortait d'un long somme. Le prophète lui aspergea le visage avec de l'eau et dit, « Viens à moi pour trouver la vérité, car tu as beaucoup de chemin à parcourir sur cette voie. »